cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard le 19 janvier 1988.
Alors une question pour l'éthique religieuse, mon père. Si l'adoration est un acte d'amour volontaire à l'égard de Dieu, comment doit-on considérer une peur à l'égard de Dieu? Celle-ci implique aussi une reconnaissance de dépendance totale de la créature vers son Créateur. La peur d'Adam après avoir péché. Il entend les pas de Dieu. Donc quand vous entendez les pas de Dieu durant la nuit, ça peut vous faire peur. Il a peur, Adam, parce qu'il a péché. S'il n'avait pas le péché, il n'aurait pas peur. Celui qui a une conscience pure n'a pas peur. Mais comme notre conscience n'est jamais totalement pure, il y a des restes de peur. La peur d'être en face de quelqu'un transcendant. Pourquoi vous avez peur de temps en temps d'être en face de l'autorité? Si vous avez peur que l'autorité sonde votre cœur et qu'il voit qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait au point, vous savez, comme quand une mère regarde son enfant, dit « je vois dans tes yeux ». Elle ne voit rien, mais ça ne fait rien, elle voit dans les yeux. Puis je vois bien ce que tu as fait, ce n'est pas bien. L'enfant a peur dès qu'il a pris un morceau de sucre dans le dos de sa mère. Elle n'ose plus regarder sa mère. Il y a une peur. Je sais bien que les psychanalystes essaient d'étudier autrement, mais je crois que c'est beaucoup plus simple que ce que disent les psychanalystes. La peur est une passion. Toute cette passion, la peur, ça, c'est en face du mal imminent. Alors on a peur. Or, quand on a mal, on a fait quelque chose de mal, on a peur du gendarme. Quand vous vous avez bien conduit, vous n'avez pas peur du gendarme. Elle fait un petit excès de vitesse et vous voyez un gendarme au coin. Hein? Vite, vous ralentissez, puis vous dites, mais il m'a peut-être vu au moment où je faisais encore un suite, donc vous avez un petit peu peur quand vous passez devant lui. Et s'il donne un coup de sifflet, eh, je suis pincé. Et vous avez peur. Analysez vos peurs. Il faut les analyser. Puis il y a une peur particulière à l'égard de Dieu. Dans les traditions religieuses, qui accentue la prédestination immutable. Cette peur peut aboutir à une vraie angoisse. Oui, toute peur peut aboutir à l'angoisse. Oui, on glisse de la peur à l'angoisse. Comment? Par l'imaginaire. Je crois que l'angoisse, c'est l'oubli de l'expérience. Tant que l'expérience est là, on a peur. La peur garde un certain réalisme. L'angoisse n'a plus aucun réalisme. C'est purement subjectif. Vous voyez, on a peur du gros chien. On a peur du gendarme. On a peur des yeux de sa mère qui sont de les mains et les cœurs. On a peur de Dieu qui... La peur. Il faut analyser la peur. Si on n'analyse pas, on n'arrive jamais à dépasser cette peur. Cette peur peut provenir d'une quantité de choses. On avait un père particulièrement autoritaire ou une mère particulièrement autoritaire. Ce qui fait qu'on a des tas de choses qu'on n'a pas osé dire. Et alors on les a gardées. Ça fait des peurs. Ça s'accumule. Et quand la peur devient trop forte, on oublie d'où ça vient et là on tombe dans l'angoisse. Je crois que l'angoisse, philosophiquement, c'est l'oubli de l'expérience. On n'a plus de contact avec le réel. Un être vraiment angoissé n'a plus de contact avec le réel. Parce qu'il est complètement inhibé. Et que c'est si difficile de faire sortir quelqu'un de l'angoisse. D'une angoisse profonde. D'une petite angoisse facile. Quand elle est encore toujours proche de la peur. Vous avez peur du gros chien. Ça se corrige, ça. Vous montrez que le gros chien n'est pas tellement méchant. Puis alors vous allez avec le gosse près du gros chien, puis vous le tâtez... la tête, et puis il mord pas. Tu vois, il mord pas, le gros chien. Tandis qu'on croit que le gros chien, il meurt. Il mord nécessairement. Et que c'est le propre du gros chien de mordre. Et c'est vrai que la prédestination mal comprise, comme un fanatisme, donne cette angoisse. Ou à une passivité, ou même à une révolte violente contre toute religion. C'est très vrai. C'est très vrai que la peur peut. La peur est toujours mauvaise conseillère. Hein? C'est le vieux dicton, ça. Et particulièrement, cette peur à l'égard de quelque chose de transcendant. Et c'est très vrai que la religion peut engendrer la peur. Vous voyez? Et c'est ce qui explique comment certains psychanalystes veulent supprimer ça complètement. Alors, il y a la peur, il y a le scrupule. Le scrupule est déjà beaucoup plus précis. C'est pour ça que je crois qu'il y a différents types d'angoisse. J'en parlais avec un psychanalyste que je connais bien à Paris. Je lui ai dit, on devrait analyser les angoisses. D'où ça vient? Et l'angoisse de la peur n'est pas la même que l'angoisse du scrupule. Et l'angoisse du scrupule est plus liée à l'éthique, et donc plus liée à la religion. Et je crois que le point de vue de la prédestination, c'est beaucoup plus du côté de l'angoisse du scrupule. Il faut analyser les diverses angoisses par le point de vue des peurs. C'est très vrai que ça, c'est très vrai que toute vertu va avoir toujours un contrepoids. Ça explique du reste la psychanalyse. Hein. La vertu, c'est la conquête de l'intelligence rationnelle, prudentielle, sur la passion. C'est ça le problème de la vertu. C'est que la prudence éclaire de l'intérieur nos passions pour leur donner une noblesse humaine. Alors que la passion comme telle est au niveau purement sensible, animal. Un chien a peur. Comme vous pouvez avoir peur. Et quand un chien a peur, il aboie. Et quand vous avez peur, vous aboyez. Et si vous êtes bien élevé, vous n'aboyez pas. Et vous reprenez ça, et petit à petit, ces peurs qui ne sont pas analysées conduisent à l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut analyser ces peurs. Et dès que vous analysez ces peurs, vous rendez le terrain salubre. Et la vertu peut s'emparer de cela. Parce que ce n'est pas une vertu, la peur. La crainte. La peur. C'est une passion. C'est passionnel. Et ça peut aller très loin, du reste. Hein. Ça peut nous inhiber complètement. Et alors, quand elle tombe dans l'angoisse, c'est beaucoup plus difficile de s'en corriger. C'est pour ça qu'il faut attraper avant. Mais ça, c'est vrai que par rapport à la réalité première qui est Dieu, c'est sûr que s'il n'y a pas l'amour volontaire de l'adoration, très facilement, parce que nous sommes des pécheurs, nous aurons peur de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs. Réfléchissez là-dessus. Je veux avec vous, très rapidement, voyez, regarder ce que saint Thomas nous dit sur la vertu de religion. Donc c'est dans la Secunda Secundae, question 82. Pour ceux qui veulent retrouver, hein, question 82 sur la religion. Secunda Secundae. La seconde partie de la deuxième partie. C'est pour ça qu'on dit secunda secundae. Et on l'écrit comme ça. Il faut savoir ça pour saint Thomas. Parce que les références sont comme ça. On devrait être secunda secundae. Question 83. Article, alors, 1 ou 2. Question 82. Alors, question 82, c'est la dévotion. Puis, Saint Thomas voit, question 83, la prière. Question 84, l'adoration. Alors, voyez ce que nous allons faire ensemble. Petite étude, je ne veux pas la faire trop poussée, mais ce serait très intéressant. Ce serait un petit travail extrêmement intéressant à faire pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés. Troisième année, petit travail très intéressant. C'est de regarder l'étude que fait saint Thomas en théologien sur la vertu de religion. Et je dis bien la vertu. La vertu de religion, ça s'acquiert. On devient un être religieux. Ça s'acquiert dès la toute petite enfance. Si on a été élevé dans un milieu chrétien, bon, on comprend ce que représente cette acquisition de la vertu. Si on a été élevé dans un milieu purement marxiste, ou païen, ou, si vous voulez, un milieu tout à fait scientiste, par exemple, bien, de fait, la vertu de religion ne pousse pas. Alors, elle pousse quand on se convertit. Et là, il faut acquérir la vertu de religion. Avant la vertu de religion, saint Thomas donc étudie la vertu de religion. La vertu de religion, c'est un habitus qu'une qualité existe. Une qualité acquise. On acquiert ça. Et on acquiert comment la vertu de religion? On l'acquiert par des actes volontaires, des actes religieux, c'est-à-dire des actes d'adoration. Alors c'est ça qui est intéressant à voir. C'est là où je pose la question. Vous voyez? Je le cherche avec vous. Quel est le premier acte qui nous permet d'acquérir la vertu de religion? Est-ce l'acte d'adoration ou est-ce l'acte de dévotion? Ou la prière ou l'adoration? Vous voyez, l'ordre que donne saint Thomas ici, est-il un ordre de nature ou un ordre génétique? Partant de la vertu de religion, saint Thomas analyse la vertu de religion en théologien. Donc c'est dans la lumière de la foi. Tandis que le philosophe, lui, part de l'expérience. Quelle est la première expérience? Est-ce la dévotion? Est-ce la prière? Ou est-ce l'adoration? Qu'est-ce qui va caractériser l'homme religieux? Est-ce la dévotion? Est-ce la prière ou l'adoration? Bon, je vous ai parlé, moi, spontanément, de l'adoration, l'homme qui adore. Je peux adorer sans avoir la vertu de religion. Heureusement, autrement je ne pourrais jamais l'acquérir. Donc je peux poser des actes d'adoration sans avoir la vertu de religion. Et puis petit à petit, si je répète ces actes, petit à petit, j'acquiers cet habitus. Et j'acquiers la vertu de religion. Alors est-ce que j'acquiers plus vite la vertu de religion par l'adoration ou par la dévotion? Vous voyez la question, hein? Au plan philosophique, j'essaie de saisir quelle est la voie expresse pour acquérir la vertu de religion. C'est ça que fait le philosophe. Il essaie de comprendre qu'est-ce qui caractérise l'homme religieux. Est-ce que c'est l'acte d'adoration? Est-ce que c'est l'acte de dévotion? Est-ce que c'est l'acte de prière? Et une fois que je découvre ça, je vois que l'ordre du philosophe n'est pas le même que l'ordre du théologien. Oui, c'est ça l'enjeu. Et je prends ici parce que c'est particulièrement intéressant pour nous. C'est particulièrement intéressant. Si on fait une éthique religieuse, il faut savoir quel est le fondement de cette éthique religieuse. Est-ce la dévotion? Est-ce la prière? Est-ce l'adoration? Donc vous voyez bien l'enjeu. Si vous ne voyez pas l'enjeu, ce qu'on va faire, ça n'a aucun intérêt. Si vous voyez l'enjeu, c'est très intéressant. Parce que c'est peut-être là où on voit le mieux la distinction entre l'aspect théologique et l'aspect philosophique. Le philosophe étudie l'homme. Le théologien part de la lumière de Dieu. Or, ici, saint Thomas nous donne, j'ai pas besoin de le chercher, je me fais disciple de saint Thomas. Saint Thomas nous donne cet ordre. Dévotion, prière, adoration. Et ceci, l'analyse de la vertu de religion. Spontanément, je dis bien spontanément, au plan philosophique, je me dis quelle est l'expérience caractéristique qui me permet de découvrir une éthique religieuse. Je dis, c'est l'acte d'adoration. Comment se fait-il alors, tout de suite l'objection d'un bon disciple de saint Thomas, comment se fait-il que vous partez de la vertu de religion, de l'acte d'adoration, puisque pour saint Thomas, c'est la dévotion, c'est la prière ensuite, et l'adoration en troisième lieu. Donc, au fond, vous n'êtes pas la disciple de saint Thomas, vous faites quelque chose de tout à fait autre. Vous devriez tout simplement dire, mais non, c'est la dévotion. C'est l'acte de dévotion. Ou c'est l'acte de prière. Et l'adoration en troisième lieu. Alors voyez, je vais essayer de voir la structure que nous donne saint Thomas au point de vue théologique. Faites un peu de théologie. Hein. C'est pour ça que vous dites, là, changez votre fusil d'épaule. Hein. Nous analysons saint Thomas. Et dès que vous analysez saint Thomas dans la Somme, mettez-vous tout de suite dans la peau du théologien. Et le théologien part de la foi. Comme vous avez la foi, vous pouvez le faire. On est philosophe, nous tous, hein, on fait de la philosophie parce qu'on est théologien, parce qu'on a la foi. Alors c'est intéressant de voir que l'ordre du théologien n'est pas le même que l'ordre du philosophe. Et toute l'erreur de la scolastique décadente provenant de Suarez, c'est d'extraire de l'ordre du théologien l'ordre du philosophe. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne comprend plus rien du tout. Alors, je regarde dans saint Thomas. Première question sur la vertu de religion. Après avoir montré ce que c'était que la vertu de religion, et a montré que la vertu de religion a une extension très particulière. C'est une vertu très fondamentale, la vertu de religion. C'est l'attitude de la créature à l'égard de Dieu. Et donc ça fait partie de la justice. À l'égard de Dieu, il n'y a pas de véritable justice pour la créature. Mais il y a une sorte de justice. Rendre à Dieu ce qui lui est dû. C'est ça la vertu de religion, la vertu de justice. Rendre à l'homme ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui est dû à Dieu comme créateur? Quel est le dû? C'est la vertu de religion qui va nous donner ce sens d'être honnête à l'égard de Dieu. Vous voyez, je pars de la vertu de religion, elle est déjà acquise, hein, puisque je suis chrétien. Et la vertu infuse en religion, chacun d'entre nous, dès qu'on est chrétien, dès qu'on a la grâce. On est tous religieux. On ne l'est peut-être pas philosophiquement parlant, c'est qu'il y a un fond en nous, en religieux. Si vous avez été élevé dans une attitude marxiste, la religion, l'opium du peuple. Donc, je n'aime pas cette attitude religieuse. Il y a des vieux restes comme ça, hein, si on a été élevé dans une attitude socialiste, la religion, attention. Il faut faire attention. Si vous avez été élevé dans une attitude, justement, positiviste, la religion, attention, c'est du sentiment. Pas plus que ça. C'est pas humain. C'est pas naturel. C'est pas humain, la religion. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On vous a fourré ça en vous disant qu'il fallait être religieux. Ça peut arriver, hein. Au bout d'une année ou deux années de religion, pourquoi a-t-on des réactions violentes contre l'attitude religieuse? C'est que dans notre jeunesse, on a entendu certains mots. La religion, l'opium du peuple. Et ça reste. Alors, qu'est-ce que c'est que la dévotion? Pourquoi saint Thomas met-il la dévotion comme premier acte? Maintenant, abordons l'étude des actes de religion. Donc, ce par quoi la vertu de religion s'acquiert. Puisque c'est par les actes qu'on acquiert la vertu. Le théologien, lui, regarde d'abord la vertu. Le philosophe regarde d'abord les actes, pour remonter des actes à l'habitus, donc aux vertus. La dévotion est-elle un acte spécial? Donc, qu'est-ce que c'est que la dévotion? Qu'est-ce que c'est que d'être dévot? La dévotion vient de dévouer. Devotio dicitur a devovando. Et l'on appellera dévot ceux qui, en quelque sorte, vouent à Dieu leur propre personne en un assujettissement total. Donc le dévot, c'est celui qui s'attache, c'est celui qui est dévoué. On est dévoué à Dieu. On est attaché comme un serviteur et dévoué à son maître. C'est ainsi que l'antiquité païenne désignait par ce terme ceux qui se dévouaient aux idoles, se livrant à la mort pour le salut de leur armée, comme Tite Live le raconte des deux décès. On voit par là ce qu'est la dévotion, rien autre qu'une volonté de se livrer promptement à ce qui concerne le service de Dieu. Ça regarde le service de Dieu, le sacristain de Dieu. Hein? Ça, là, on est dévoué. Le sacristain, il est dévoué aux choses du culte. Alors, on est dévoué. Donc, on voit par là que la dévotion n'est rien d'autre qu'une volonté de se livrer promptement à ce qui concerne le service de Dieu. On est serviteur de Dieu. Un serviteur, il est dévoué à son maître. Ainsi, la foule des enfants d'Israël offrit d'une âme très prompte et dévote les prémices au Seigneur. C'est dans l'Exode, ça. Dans l'Exode, on comprend très bien. Vous voyez? C'est très intéressant que saint Thomas renvoie à l'Exode. Pourquoi? Parce que l'Exode, c'est le livre qui nous montre comment Dieu reprend le peuple d'Israël, qui est un peuple essentiellement relié à Dieu, donc dévoué à Dieu. Il reprend le peuple d'Israël qui, sous le joug du Pharaon, a perdu le sens de Dieu. Le sens de son lien avec Dieu. Et il faut le replonger au désert pour qu'il redécouvre le sens de Dieu. On perd dans sa vie, on peut perdre le sens de Dieu si vous êtes trop sous le régime du Pharaon. L'humanité d'aujourd'hui est sous le régime du Pharaon. Le régime du Pharaon, c'est de faire le primat à l'efficacité. Si vous êtes dans un primat d'efficacité, petit à petit vous perdez le sens de Dieu. Le sens de Dieu, ça se perd. Alors on se dit, mais pourquoi je suis là? Complètement idiot tout ce que je fais. J'ai perdu le sens de Dieu. Alors comment réacquérir le sens de Dieu? Point de vue éducatif. Se vouloir, donc être dévoué à Dieu. Faire des actes de dévouement. Se vouloir portant sur le prompt accomplissement de ce qui tient au service divin est manifestement un acte spécial. La dévotion est un acte spécial de la volonté. Je veux être lié à Dieu. Voilà ce que c'est que la dévotion. Dans un service particulier. Alors, l'article suivant, saint Thomas montre comment la dévotion est un acte de la religion. C'est à la même vertu qu'il appartient de vouloir faire quelque chose et de tenir sa volonté propre à l'accomplir. Ces deux actes ont en effet même objet. Ainsi, dit Aristote, la justice fait vouloir et accomplir le droit. Les œuvres qui concernent le culte ou le service divin sont le domaine propre de la religion. C'est donc à elle qu'on attribuera l'acte de tenir sa volonté prompte à les exécuter. C'est cela même, être dévot, c'est donc faire acte de religion. On est dévoué au culte de Dieu. Si on est dévoué au culte de Dieu, c'est bien un acte de la religion, puisque la religion, c'est justement respecter le lien qui existe entre le Créateur et la créature et respecter les droits de Dieu. Par la dévotion, je respecte fondamentalement les droits de Dieu, puisque je veux être dévoué à Dieu. Oui, d'une certaine manière. La piété impliquera cette confiance. Et dans la dévotion, il y a cela. Je dirais la dévotion regarde plus le culte. Vous voyez, la piété regardera plus le cœur. La piété comme telle. Alors, saint Thomas pose la question. La dévotion a-t-elle pour cause la contemplation ou la méditation? C'est très intéressant, ça. La cause extérieure et principale de la dévotion, c'est Dieu. Dieu, nous dit saint Ambroise, appelle ceux qu'il juge bon d'appeler, rend religieux celui qu'il veut. Et s'il l'avait voulu, des Samaritains tirés de leur indifférence eût fait des êtres de dévotion. Quant à la cause du dedans qui tient à nous, c'est nécessairement la méditation ou contemplation. Comme on l'a dit, en effet, la dévotion est un acte de volonté qui fait qu'on se livre avec promptitude au service de Dieu. Tout acte de volonté procède d'une certaine vue de l'esprit, l'objet de la volonté étant le bien perçu par l'intelligence. La volonté naît de l'intelligence, dit saint Augustin. Nous en déduirons nécessairement que la méditation est cause de dévotion, pour autant qu'elle fait naître en nous cette conviction qu'on doit se livrer au service divin. À cela même, deux ordres de considération, les unes prises de la divine bonté et de ses bienfaits. Il m'est bon d'adhérer à Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Cette considération éveille l'amour, cause prochaine de la dévotion. Un autre sujet de méditation se tire de nous-mêmes et de la vue des déficiences ce qui nous force à nous appuyer sur Dieu, élever les yeux vers les sommets d'où me viendra le secours. Cette vue fait rejeter la présomption qui, nous faisant compter sur nos propres forces, nous empêche de nous soumettre à Dieu. Pour être dévot, il faut une connaissance de Dieu, d'où méditation et contemplation. Et là, vous rejoindriez la piété. La piété nous met dans confiance avec Dieu. Pour avoir confiance avec Dieu, il faut savoir que Dieu est mon Père. C'est pour ça que c'est la piété. Et la dévotion regarde plus le Créateur comme tel et la transcendance de Dieu, où je me mets à son service. Donc, voyez bien, dévotion, acte de religion qui me met dans cette attitude de me vouer à Dieu, de me lier à Dieu. Second acte, la prière. La prière est-elle un acte de l'affectivité? C'est un acte du cœur, la prière, ou un acte de l'intelligence? Posez-vous la question. C'est intéressant de se poser la question. Quand vous priez, est-ce que c'est votre cœur avant tout ou votre intelligence? Vous allez me dire, les deux, c'est évident, les deux sont liés. Est-ce plus le cœur ou le point de vue d'intelligence? Alors, voici la réponse de saint Thomas. Cassiodore discerne dans le mot « oratio », prière, l'étymologie de « oris ratio », raison formulée. Distinguons ici la raison spéculative et la raison pratique. À la première, simple faculté de saisir le réel, la seconde ajoute un pouvoir de causalité. C'est très intéressant de voir comment saint Thomas distingue la raison spéculative de la raison pratique. Oui, d'où la distinction de la philosophie spéculative et la philosophie pratique. Vous avez là la raison. Hein. Pour ceux qui travaillent ce sujet, c'est bon de revenir à ce petit texte de saint Thomas. C'est un petit texte intéressant. La causalité peut d'ailleurs revêtir deux aspects. La causalité peut être parfaite, le résultat étant nécessairement produit, comme il arrive lorsque les effets sont totalement au pouvoir de la cause qui les domine. Elle peut être imparfaite et seulement dispositive, lorsque la cause ne tient pas totalement l'effet sous son emprise. Ce double aspect se retrouve dans le cas de la raison. Son action peut se faire contraignante, c'est ainsi qu'il lui appartient de commander aux puissances inférieures et aux membres du corps et de l'exercer et d'exercer sa maîtrise non seulement sur eux mais encore sur les hommes qui nous sont soumis. C'est la causalité du commandement. Mais l'influence de la raison peut également se borner à mettre en train la chose et à organiser en quelque sorte sa réalisation. C'est de cette manière qu'elle agit, qu'elle demande l'accomplissement de quelque chose à qui ne lui est point soumis, mais égal ou supérieur. Ces deux procédés, en tout cas, commande et demande, ou prière, donc la demande c'est la prière, comportent certaines ordonnances. On règle la réalisation d'une chose en la dépendance d'une autre. Et cela se révèle bien l'activité de la raison essentiellement ordinatrice. C'est le sens du texte d'Aristote, la raison porte au bien parfait sous forme de prière. Et c'est en ce sens, c'est curieux hein, de rechercher Aristote pour nous dire ce que c'est que la prière. Cet homme pourrait partir de son expérience. Je crois qu'il sait mieux qu'Aristote ce que c'est que la prière. Et pourtant, il se réfère à Aristote. Pourquoi? Parce qu'il essaie de faire une analyse théologique et de théologie scientifique. Ça relève de quoi la prière? Quand vous priez vraiment, pas une question de sentiment. Hein. C'est un cierge à Saint-Antoine. Très très bien, Saint-Antoine de Padoue. Quand vous mettez un cierge à Saint-Antoine de Padoue, eh bien c'est la dévotion. La dévotion, est-ce que c'est la prière? La prière, c'est quand vous retournez sur votre chaise et que vous demandez à Saint-Antoine, Saint-Antoine, il faut absolument que ma petite fille passe son examen. Absolument nécessaire. Autrement, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Elle va se désespérer. C'est la troisième fois qu'elle passe cet examen. Saint-Antoine, il faut à tout prix. Oui, vous exposez à Saint-Antoine le désir de votre cœur. Vous exposez. Dans la prière, on expose, on dit. Il y a un acte d'intelligence pratique. C'est ça que saint Thomas souligne ici. C'est pour ça qu'il fait appel à Aristote. C'est le sens du texte d'Aristote. La raison porte au bien parfait sous forme de prière. Oratio, quidam petitio est. La raison est une certaine demande. Et c'est en ce sens que nous parlons ici d'oratio, dans le sens d'imploration, d'une imploration ou d'une demande. Selon la définition d'Augustin, la prière est une demande. Oratio quidam petitio. C'est très curieux de voir que Aristote et saint Augustin se rejoignent ici et que saint Thomas aime de les mettre l'un à côté de l'autre. Ils siègent au ciel l'un à côté de l'autre. C'est très curieux. Dans leur prière, dans leur oratio, ils siègent l'un à côté de l'autre. Et c'est en ce sens, donc, la prière est une demande. Et Damascène nous dit, c'est la demande à Dieu de ce qui convient. La prière telle que nous l'entendons est donc bien un acte de la raison. Hein? Stupéfait, ça. Vous auriez tous dit l'inverse. J'en suis sûr, ça. Vous croyez que quand vous priez, votre intelligence dort et que c'est votre cœur, pas du tout. Vous exposez à Dieu les désirs de votre cœur, les demandes, pétitions. Ça, c'est très important de voir le côté rationnel de la prière. Évidemment, ce n'est pas du tout l'entendement de Descartes. Hein? Pas du tout. Ce n'est pas les idées innées de la prière. C'est la raison pratique ordonnée à la fin, tout entière transformée par l'amour. Donc il y a toute une affectivité dans l'intelligence. Vous présentez vos désirs. Vous voyez la prière d'Anne, la mère de Samuel. Elle prie tellement qu'elle pleure. La prière fait pleurer. C'est évident. Vous voyez, le terrain est toujours humide après l'horizon du matin. J'ai tellement à pleurer. Chacun en pleure. Prière fait pleurer. Parce qu'il y a tout un côté affectif. Seigneur, voyez ma détresse. Voyez, j'arrive pas à m'appliquer. Je suis incapable. Je suis une pile nerveuse. Voyez ça? Alors, Seigneur, soyez là. On expose ces fragilités, on expose ces demandes, on expose tout ce qui en nous ne va pas. Alors, la prière est donc un acte d'intelligence. Alors ensuite, convient-il de prier Dieu? Est-ce un acte de religion? On verra ça la fois prochaine. Vous voyez, j'analyse pour voir comment tous ces actes relèvent de la vertu de religion et l'ordre que saint Thomas nous donne. Et on essaiera de comprendre ensuite que pour le philosophe, l'acte propre religieux, c'est bien l'adoration. essayer de comprendre ça. Et une fois, le jour où vous aurez compris ça, vous aurez fait un pas en avant. Qu'est-ce que c'est que la dévotion? Qu'est-ce que c'est que la prière? C'est très important de savoir ça quand même. Il faut avoir un tout petit peu de lucidité dans ce que nous faisons. Nous prions tous les jours. Alors, est-ce que vous êtes suffisamment intelligent pour prier? Ou est-ce que vous priez, va comme je te pousse? Vous priez parce que la cloche sonne. Vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Ah oui, on fait en raison, on essaie, oui. On doit se précipiter un tout petit peu, on fait en raison. Et là, est-ce qu'on prie? Convient-il de prier Dieu? Les anciens, dit saint Thomas, ont commis, touchant la prière, trois sortes d'erreurs. Les anciens, nos ancêtres, les anciens ont commis trois erreurs. Il ne faut pas tomber dedans. Si saint Thomas les rappelle, c'est parce qu'elles sont tout le temps là présentes. Ces trois erreurs pour la prière. Les uns ont soutenu que les affaires humaines ne dépendent point de la providence de Dieu. D'où l'inutilité de la prière et de tout culte religieux. Dieu, c'est l'Olympe. Tandis que tout ce que nous faisons de contingent, ça ne regarde pas Dieu. Il y a de temps en temps un petit peu ce vieux scepticisme, vous voyez, qui existe. C'est à eux que s'applique cette apostrophe de Malachie. Vous avez dit, c'est vanité que servir Dieu. Pour d'autres, premièrement, Dieu ne s'occupe que des choses spirituelles. Évidemment, ça va contre le Notre Père. Hein. Donnez-nous notre pain quotidien. Pour d'autres, tout, même les choses humaines, se produisent suivant un cours nécessaire. Qu'on l'explique par l'immutabilité de la providence, les influences astrales ou l'enchaînement des causes. C'est comme ça qu'il y a eu récemment, il n'y a pas très longtemps, des articles sur la prière. Est-ce que l'érogation signifie quelque chose dans notre monde scientifique? Vous demandez à Dieu la pluie, vous demandez à Dieu le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça est déterminé. Et vous pouvez prévoir la météo, prévoir. Et elle ne prie pas. Je suis persuadé que celui qui donne la météore à la radio ne prie pas. Il dit, ça va arriver comme ça. Ça doit arriver comme ça. Donc c'est tout à fait inutile, vous n'avez pas prié, puisque c'est déterminé. Tout est déterminé. Il y a des articles très sérieux de théologiens qui ont dit, mais oui. Tout ça, c'est des vieux restes. Des vieux restes de religion antique qui disaient qu'il fallait prier pour les récoltes. Mais non, c'est déterminé. Oui, positivisme qui s'introduit comme ça. Et si on vous a dit qu'il ferait beau demain, c'est tout à fait inutile de prier pour qu'il fasse beau. Parce que c'est déterminé. Hein, qu'est-ce que vous diriez devant ça? Ça, c'est des questions tout à fait de la radio Saint-Étienne. On va en envoyer comme ça et puis on va voir les réponses. Parce que vous pouvez toujours en envoyer, n'est-ce pas? Non, vous avez les réponses qui vont se donner magistrales du théologien qui essaie de comprendre est-ce que de fait on peut aller contre ces nécessités astrales? Est-ce que la prière va lutter contre les nécessités astrales? Il y a un petit dieu pour les nécessités astrales et il y a un grand dieu, Zeus, qui va dire non, il va arrêter les nécessités astrales. L'enchaînement des causes. Ils aboutissent à la même conséquence, prier ne sert de rien. D'autres, enfin, admettent bien que les choses humaines, régies par la providence de Dieu, ne se produisent pas fatalement. Mais ils disent que la divine providence peut varier en ses dispositions et que les prières et les autres pratiques cultuelles peuvent changer quelque chose à l'ordre par elle établi. Toutes ces erreurs ont été réfutées dans le premier livre. Ça te me renvoie. Mais c'est vrai. Est-ce que d'un pas la prière, vous changez Dieu? Est-ce que grâce à vos larmes, Dieu qui est tellement bon. Alors va changer ses décisions. Mon petit, tu as tellement bien prié que je vais changer, moi. Est-ce que Dieu change ses décisions? Est-ce que Dieu est influençable sur votre prière? Alors il faut beaucoup prier. Et puis beaucoup pleurer. Parce que si vous ne pleurez pas, vous n'allez pas toucher le Père qui vous écoute. Vous savez bien, il est faible. Quand vous mettez à pleurer, mais oui, tout de suite, il dit, mon petit, ne pleure plus. Je vais changer. Est-ce que Dieu est comme ça? Alors, est-ce que c'est ça la prière? Changer les décrets de Dieu. J'ai un tel pouvoir sur Dieu que dès que je demande quelque chose à Dieu, Dieu immédiatement va changer ses décrets et puis il se remet à mes déterminations. Est-ce que c'est ça la prière? Est-ce que le but de la prière, c'est de faire changer les décrets de Dieu? On verra ça.